Charlotte n'était pas venue à la séance hebdomadaire. Cela me contrariait. Je voulais faire le point sur ses résultats aujourd'hui. Marek se trouvait en repos hypnotique profond. Son pull serrait ses puissants avant-bras et les muscles hypertrophiés de son dos. Sa tête rasée était recouverte de cicatrices. Les muscles de ses mâchoires saillaient. Il leva la tête et me fixa de son regard vide. « Je ne peux pas m'arrêter de rire, » dit-il d'une voix forte. « Ces décharges électriques font sauter les gars de Mostar comme un personnage de bande dessinée. » Marek avait l'air content et balançait la tête. « Le gars est sur le sol en béton, il est rouge de sang, il respire rapidement, très rapidement, et puis il se recroqueville et commence à pleurer. Ni une ni deux, je lui crie de se mettre debout, que je vais le buter s'il se met pas debout, que je vais enfoncer ma putain de baïonnette jusqu'à la garde dans son cul. » Marek se tut un instant, puis il reprit sur le même ton détaché. « Il se lève, il a du mal à rester debout, ses jambes tremblent, sa bite s'est rétractée. Il tremble, demande pardon, dit qu'il n'a rien fait de mal. Je m'approche de lui, je regarde ses dents ensanglantées et je lui administre une violente secousse électrique dans le cou. Il convulse, ses yeux écarquillés roulent dans leurs orbites, il se cogne plusieurs fois la tête contre le mur, ses jambes sont secouées de spasmes. Je ris à gorge déployée. Il glisse le long de la rampe, du sang coule de sa bouche, puis il s'effondre sur les couvertures dans le coin. Je lui souris, me penche, lui balance une autre décharge, mais le corps rebondit simplement comme celui d'un cochon mort. Je crie en direction de la porte que le spectacle est terminé, mais ils entrent avec le grand frère du gars. Je l'ai déjà rencontré. Nous avons travaillé ensemble pendant un an à Aluminige, l'usine qui se trouvait près de... Marek se tut, le menton tremblotant. « Qu'est-ce qui se passe ensuite ? » demandai-je d'une voix basse. Il resta silencieux un moment, avant de reprendre. Le sol est couvert d'herbes vertes. Maintenant, je ne peux plus voir le gars de Mostar. Il n'y a plus qu'un petit tertre d'herbe. N'est-ce pas étrange ? Demandai-je. Je ne sais pas. Peut-être, mais je ne vois plus la pièce. Je suis dehors, c'est l'été. Je traverse un pré. L'herbe est humide et froide sous mes pieds. Tu veux retourner à la grande maison ? Non. Délicatement, je sortis tout le monde de l'hypnose et vérifiai l'état de chacun avant d'engager la conversation. Marek essuya les larmes de ses joues et s'étira. Il avait de grandes auréoles de transpiration sous les bras. J'étais forcé, c'était leur truc. Ils me forçaient à torturer mes vieux camarades, dit-il. Nous le savons, dis-je. Il nous dévisagea de ses yeux timides et pénétrants. Je riais parce que j'avais peur. « Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas dangereux, » chuchota-t-il. « Personne ne te juge, Marek. » Il s'étira de nouveau et croisa mon regard avec une expression de défi. « J'ai fait des choses atroces, » dit-il. Puis, il se gratta le cou et se tortilla inconfortablement sur sa chaise. « On t'a forcé à les faire. » Marek écarta les bras en signe d'impuissance. « Mais quelque part, je suis tellement bousillé, » dit-il, « que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. »« Vraiment ?»« Putain !» gémit-il. « Ce ne sont des mots, je ne sais pas, je ne sais rien. »« Je crois que tu te souviens parfaitement de tout, » intervint soudain Lydia avec un sourire doux. « Pourquoi tu ne veux pas nous raconter ?»«
Ta gueule !»
cria Marek. Il avança vers elle, la main levée. « Assieds-toi » criai-je.
« Marek, tu ne me parles pas sur ce ton, » dit Lydia calmement.
Il rencontra son regard et s'arrêta. « Pardon, » dit-il, avec un sourire hésitant. Il se passa la main une ou deux fois sur le sommet du crâne, puis retourna s'asseoir. Pendant la pause, je regardais par la fenêtre ouverte, une tasse de café à la main. C'était une journée sombre. Le ciel était bas, la pluie menaçait. Un vent froid, cinglant, charriait une légère odeur de végétation. Mes patients commencèrent à rejoindre leur place dans la grande salle de thérapie. Eva Blow était entièrement vêtue de bleu. Elle avait mis du bleu sur ses fines lèvres et de l'eyeliner autour de ses yeux. Elle semblait aussi agitée que d'habitude. Elle posait son gilet de laine sur ses épaules, le retirait puis recommençait. Lydia parlait avec Pierre. Tandis qu'il l'écoutait, ses yeux et sa bouche étaient secoués d'épouvantables tics. Marek me tournait le dos. Ses muscles de culturiste remuaient pendant qu'il cherchait quelque chose dans son sac à dos. Je me levai et fis signe à Cybèle de rentrer. Elle éteignit aussitôt sa cigarette contre sa chaussure et la remit dans le paquet. « Reprenons, » dis-je avec l'intention de refaire une tentative avec Eva Blow.